Je pense que je vais résumer le premier sujet avec un courriel que j'ai reçu. Ce sont des Montréalais, c'est une famille montréalaise, qui se cherchent désespérément un logement. Ils sont prêts à payer, une famille de quatre, ils sont prêts à payer 1200 à 1400 par mois, maximum, là, pour pas. Puis ils sont pas capables de rien trouver que de l'allure. Et ils se sont fait évincer de leur logement, où on a prétexté des travaux importants, puis une reprise par le propriétaire. C'est sûr que là, la crise du logement, on est au mois d'avril, au mois de mars, avril, ça va être assez dur cette année, Luc.
Écoute, il y a toutes sortes de signes importants. Là, d'abord, c'est plus juste dans les quartiers centraux. Là, c'est tout Montréal. On note des augmentations d'évictions de 400 % à Montréal-Nord. Montréal-Nord, tu sais, c'est comme... Là, si tu te fais expulser de Montréal-Nord, tu vas où? Tu sais, après ça, dans Côte-des-Neiges aussi, les quartiers réputés pauvres, démunis, bien, plus pauvres que les autres. Là, tu t'attendais à ce qu'il n'y ait pas une inflation galopante, là, et ça se produit aussi. Ailleurs au Québec aussi, des exemples à Rouyn-Noranda, à Rimouski, à Saint-Hyacinthe, des logements qui augmentent rapidement, 1 000 $ par mois pour un 4,5. C'est assez courant. Puis, une enquête a été faite par le comité logement de Rosemont. Ils ont analysé 363 cas d'éviction. Et là-dessus, il y en avait 85 % c'était illégitime. Donc, c'était arrangé avec le gars des vues. Le gars dit qu'il veut rénover, mais il ne rénove jamais. Il dit qu'il veut installer sa fille, mais il ne l'installe pas. Et c'est très, très, très long pour pouvoir régler une situation comme celle-là. C'est jusqu'à 2 ans en cours à partir du gars. Et les gens, les propriétaires le savent. Là. Quel locataire va te poursuivre pendant 2 ans en cours alors qu'il a déjà refait sa vie ailleurs pour prouver que toi, t'as menti et que c'est pas ta fille qui habite là? Alors, ça se résout pas facilement. Ça se résout très, très, très difficilement. On est en crise du logement. Formidable, phénoménal. Il y a une façon pour les arrondissements d'arrêter ça. Elle a été adoptée, cette façon-là, par 8 arrondissements. Ça a commencé par le plateau Mont-Royal, sous les augures d'un excellent maire à l'époque. Mais c'est pas moi qui ai voté, par exemple, finalement, le dernier texte, parce que ça a été voté après que je sois parti. C'est d'arrêter les fusions de logements ou les scissions de logements. Parce qu'il y a 4 raisons pour lesquelles tu peux récupérer un logement. Tu dis, je vais le diviser en 2 pour faire 2 logements, si c'est un grand 8,5, mettons. Ou tu dis, je vais faire un grand 8,5 avec 2 4,5 que j'ai. Ça, c'est des fusions de logements. Après ça, tu peux dire que tu installes ta famille. Puis la troisième chose, c'est que tu dis, tu changes la vocation du logement. Les deux façons les plus utilisées, c'est scission et fusion. Et là, elles ont été interdites par 8 arrondissements. Mais ça amène beaucoup de problèmes aussi. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment prendre 2 logements dans un triplex et s'installer là avec leur famille. Ça existe pour vrai. Des bonnes personnes qui veulent faire le bon projet, ça existe.
Qui veulent un grand logement, par exemple.
La famille a grandi, puis l'appartement, la maison leur appartient, etc. Et ils l'acquièrent pour cette raison-là. Et ils ne peuvent plus le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de crosseurs dans le système. Et qu'on est obligé de mettre des mauvaises lois pour bloquer des mauvais comportements.
Nathalie.
Bien, tout d'abord, j'espère, Paul, que l'appel de cette famille qui semble effectivement désespérée va être entendu par un propriétaire quelque part à Montréal, parce que la situation illustre un autre phénomène. Les gens quittent l'île de Montréal parce que les loyers sont de plus en plus chers. Luc, j'adhère totalement à ce que tu dis. Des cas de loyer, tu sais, un 3,5, tu payais 550 $ sur l'île. Il y a des propriétaires véreux, effectivement malhonnêtes, qui évincent leurs locataires. Puis après ça, ils louent sans rénovation le même logement à 1500 $ par mois. Et le phénomène, tu parlais de d'autres villes puis au Québec. Oui, mais il y a aussi Québec. C'est un phénomène, évidemment, qui est généralisé. Et puis, le contexte de la surenchère sur le plan immobilier exacerbe les cas d'éviction, ce qu'on appelle les rénovictions. Puis là, on ajoute un concept à ce qui se passe, la spécuviction. Et tu référais à une enquête du comité de logement en Petite-Patrie. Moi, je lève mon chapeau à tous les comités de logement qui nous permettent de mieux comprendre les réalités des locataires, parce que c'est eux qui documentent et qui statistiques à l'appui nous démontrent que le phénomène est plus qu'inquiétant. Là, tu sais, il faut poser des gestes. Les arrondissements l'ont fait. Mais moi, quand j'entends des témoignages de locataires qui disent on se fait intimider, harceler par des représentants de propriétaires, parce que souvent, le propriétaire, les chickens en bon français, ils n'ont pas le courage d'affronter les locataires, fait qu'ils envoient des fiers à bras faire de l'intimidation auprès des locataires. La seule façon pour eux, c'est de se tourner vers le tribunal du logement, l'ancienne régie du logement. Mais là encore, c'est au locataire à démontrer le fardeau qui est important. Et puis bon, tu l'as dit, Luc, souvent les gens ont des moyens limités. Puis le temps d'attente aussi au tribunal du logement est important. Moi, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas appeler la police en pareille circonstance lorsqu'un locataire se fait harceler de cette façon? Parce que l'objectif, c'est de le pousser vers la sortie, on s'entend. L'autre chose, l'autre solution, évidemment, qui est plus long terme, mais c'est dire, OK, il y a un manque de logement à Montréal, alors construisons du logement social ou du logement abordable. Et là, je veux partager avec vous, puis Luc, tu sais de quoi je vais parler. Mm-hmm. Pascal nous a écrit, j'ai partagé ça avec toi, Pascal, un promoteur. Écoutez bien ça, il nous a écrit le 15 février. Il est promoteur et entrepreneur. Il construit dans sa villa CHSLD, HLM, coop, condo. Il a développé un projet dans une ville d'une couronne X de Montréal. Je vais taire la ville parce que ce serait trop facile d'associer le promoteur à la ville. Écoutez, il a construit 500 condos locatifs dans lesquels il a inséré 124 unités pour personnes âgées, des unités financées entre autres avec les programmes de la SHQ pour logement abordable. L'objectif étant de permettre une plus grande mixité, une inclusion sociale. Bien, croyez-le ou non. À partir du moment où il a lancé son projet en 2013, il s'est écoulé plus de sept ans, avant d'obtenir toutes les autorisations des autorités compétentes pour mener à terme son projet. Le dit projet va être inauguré en 2022. Mmh. Là, on a un problème, là. Je veux dire, c'est beau le logement social, mais encore une fois, la bureaucratie, les dédales par lesquels doivent passer les promoteurs pour obtenir leur autorisation pour construire du logement social, fait en sorte qu'il faut vraiment que tu veuilles construire du logement social puis du logement abordable.
Alors, ouais, et deux choses. Premièrement, c'est pas tout le monde qui veut en faire. Le Pascal, c'est un exemple super, oui. Extraordinaire. Mais il se passe une chose. Il y a un truc qui est lié au vieillissement de la population. Là. Le marché va aller vers ce qui est le plus payant. Et qu'est-ce qui a été le plus payant dans les 10 dernières années? Ça a été de construire des tours avec des 3,5 pour des personnes, des résidences de personnes âgées. Alors, il s'est construit des milliers de logements, mais toutes dans le même créneau. Et c'est cher, hein? Très cher même pour un logement avec quelqu'un qui met une blouse infirmière au rez-de-chaussée puis qui appelle le médecin quand il y a un problème. Puis là, on appelle ça une résidence avec service. Tu sais. Oui. Mais ça, c'est extrêmement payant. Alors, les constructeurs sont allés vers là. L'autre chose, c'est qu'il s'en est construit du logement locatif ou du logement abordable. Mais comme tu dis, c'est difficile à gérer. D'abord, le logement locatif, c'est qu'une fois que tu l'as construit, tu ne fais pas juste t'en débarrasser, tu ne le vends pas. Tu ne peux pas prendre en bloc tous les logements locatifs et les donner. Il faudrait que tu puisses le faire. Mais là, il faut que tu le donnes à une corporation qui va te les acheter et qui, elle, va les gérer. Et ça, ces corporations-là...
Mais ces règlements-là dont tu parlais tantôt, là, pour empêcher que quelqu'un fusionne des logements ou divise des logements, si moi, je suis un acheteur, là, puis tu sais, mettons une jeune famille, puis là, je vois un duplex.
Ouais.
Puis là, je me dis, quand on va avoir des enfants, peut-être que je vais vouloir convertir ça en unifamilial ou... Bien là, je comprends que...
Dorénavant, tu peux plus.
Ça veut dire que si c'est ça mon rêve, je m'en vais ailleurs, là.
Oui.
Bien voilà, tu quittes peut-être l'île, mais c'est ça le danger, Luc, des moratoires qui ont été adoptés par les arrondissements, parce que tu ne fais plus de distinction entre les bons propriétaires et les mauvais propriétaires.
C'est ça, parce que la loi te donne un certain nombre d'outils, tu prends les outils qu'il y a, parce qu'il y a l'urgence, mais ce n'est pas des bons outils, comme je le disais tantôt. Il faudrait qu'on ait un vrai tribunal administratif qui fasse un vrai travail de sélection des bons cas et des mauvais cas, mais il ne fait pas ce travail-là des bons cas et des mauvais cas. Alors, et le marché ne produit pas de logement, parce que toi, tu parles de logement social, mais parlons juste de logement locatif.
Oui, privé,
Le marché ne produit pas assez de logements locatifs. À Montréal, là, il s'est construit quoi? Il s'est construit des garde-robes au centre-ville qui ont été transformés en Airbnb, puis il s'est construit des résidences pour personnes âgées. Des logements, balcon en avant, balcon en arrière, trois chambres à coucher, locatifs, il s'en fait pas.
Mais alors, c'est pour ça que les taux
les coûts de construction
sont tels. Toi, demain matin, là, si toi puis moi, on se lançait dans le business de construire des logements locatifs à Montréal privé, là, écoute, on pourrait pas louer notre 3,550 par mois.
Non, c'est 2 500. C'est 2 500. Mais sais-tu quoi? Il se loue. Il se loue même à toute vitesse. Il y a un gros complexe qui avait été construit à côté du marché Atwater. Puis je regardais les prix à l'époque.
Mais je te donne juste une auditrice qui nous écrit, là, qui dit « J'ai acheté des condos pour les louer. » OK? J'en ai trois actuellement où j'ai pas de locataire. Ils sont à 1 500 $ pour des 4,5. Mais bon. 1 500, là, je fais pas de profit avec ça, moi, là.
Exact. Ah, mais pour la petite famille, en question, il y aurait peut-être une possibilité.
Peut-être.
Le logement au coin de chez nous, il est 2 600 $ puis il est loué.
C'est un combien de pièces,
c'est-tu? 5,5. Le logement, direct la porte à côté de chez moi, il vient de se louer à 2 000 $.
Mais là, parce que la ministre de l'Habitation, André Laforêt, qui est aussi ministre des Affaires municipales, a été appelée à réagir, entre autres, suite au comité de logement de la Petite Patrie. Puis parce que politiquement, c'est pas évident de s'immiscer dans un marché comme celui-là, privé. Alors, ce qu'elle a dit, c'est, écoutez, je vais regarder le rapport, puis on verra si on peut donner plus de ressources au tribunal du logement. Le problème, c'est qu'un gouvernement après l'autre donne des ressources à sa famille tribunal, puis le tribunal, plus de régisseurs, plus de greffiers, puis on n'arrive pas, le tribunal n'arrive pas à répondre à toutes les demandes pour lesquelles il est interpellé. Alors, je me suis dit, dans ces circonstances-là, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une espèce de, comment dire, de fast track, de voie rapide, pour le tribunal pour analyser ce genre de dossier d'éviction frauduleuse. Parce qu'il faut, s'il n'y a pas de solution, les pauvres locataires, écoute, ils vont continuer de quitter l'île de Montréal.
On s'arrête là-dessus et au retour, on va parler du projet de loi déposé par le sénateur Boisvenu, mais qui est aussi en parallèle déposé à la Chambre des communes, le meilleur moyen pour contrôler des êtres violents, des cas de violence conjugale. Donc, est-ce que c'est le bracelet électronique? La 20, monsieur.